One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur, but I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10 billion years ago, but they don't love me here enough, and so I'm planning to go away. Now the children upon their lawn will wake up and wonder where I've gone, and the flies that buzz around where I now be, they're all gonna have to get along without me. They'll say,
where's the little dinosaur?
I didn't think
where's
he'd really go.
Dinosaur?
Where's
the
that
little dinosaur? He must have
please
gone
don't go away.
Away.
Avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer, tous en chœur nous chantons, on est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans leurs mains, avec eux nous chantons.
Écoutez bien les bébés dinosaures, c'est Canal Sud 92.2. Et voilà, j'ai démarré une fois n'est pas coutume par le 45 tours pourri, avec bien sûr ce morceau inoubliable de Monty, Allez les Verts, avec le groupe Les Supporters, 1976, pour fêter la remontée en Ligue 1 de la Saint-Etienne, acquise très difficilement cet après-midi. Et pour me faire pardonner auprès de Tommy Boy, qui est absent ce soir, hein, donc c'est pour ça que je me permets quelques libertés. Et peut-être auprès des auditeurs aussi, bon, on va enchaîner avec AC/DC. AC/DC Live en 79, et je crois que c'est un concert auquel Tommy Boy a assisté, enfin il me semble qu'il m'en a parlé. C'était au Pavillon de Paris, le 9 décembre 1979. Bon, un pirate, hein. Leur version de Sin City, qui pour eux apparemment Paris correspondait tout à fait, pouvait tout à fait correspondre en tout cas au titre du morceau. Sin City, AC/DC, live à Paris en 79.
Hey, because we like y'all. We'd like to go dedicate this next song to Paris and all the Parisians here tonight. A song about sin, sex and all that. And this is called Sin City.
We'll be right back.
Les Stooges, bien sûr, Give Me Some Skin, No Takes de l'album Raw Power 72, enregistré dans des studios britanniques, qu'on peut retrouver, enfin cette version-là, en tout cas, on peut la retrouver sur la compile Punk Legends, The American Roots, sorti il y a déjà un bon paquet d'années. C'était en 1997 sur Jungle Records. Et disons qu'on c'est un double album, on y retrouvait un peu le proto-punk anglais et puis le proto-punk américain et puis les premiers groupes punk américains aussi. Donc il y a Wayne County, il y a les Stooges, le MC5, les New York Dolls. On retrouve aussi Suicide, les Dictators et puis les Heartbreakers. Il y a pas les New York Dolls, ça c'est bizarre ça quand même. Si, je l'ai dit, les New York Dolls, c'est quand même un morceau des Dolls, ouais. Et il y a l'Heartbreakers, donc là on est quand même en 77, là c'est déjà le punk qui explose. Il y a Richard L, les Dead Boys aussi. Bref, une belle brochette, alors avec souvent des morceaux un peu inédits, inédits pas forcément, mais en tout cas rares, qui n'étaient pas forcément sortis sur les albums officiels, avec des versions remixées ou des singles. Bref, c'est une compile plutôt pas mal pour ceux qui aiment ce genre de musique. Et donc, on a parlé des Dead Boys. On va retrouver les Dead Boys. Avant les Dead Boys, on les a écoutés déjà la semaine dernière. C'est Frankenstein. C'est sous ce nom-là que Cheetah Chrome et Johnny Blitz ont formé un groupe avec Steve Bators et puis deux autres gars. Et avant de s'appeler Dead Boys, ils se sont appelés Frankenstein. Ils avaient déjà trois morceaux qui seront plus tard joués par les Dead Boys. Et dans l'un d'entre eux, Dead Boys apparaît, l'expression Dead Boys apparaît dans le refrain. Donc ils se sont dit que c'était peut-être plus original que Frankenstein quand même. Ou peut-être plus porteur, ou peut-être plus punk. En tout cas, ils ont enregistré une démo en octobre 1975 sous le nom de Frankenstein pour pouvoir participer à une fiesta d'Halloween. Et on en a déjà écouté un extrait de ces trois morceaux. Alors ils sont sortis en single, mais 20 ans après, en 95. On s'en écoutait un autre, donc là aussi, un autre futur classique des Dead Boys, mais dans une version très très primitive. C'est High Tension Wire, donc enregistré en octobre 75 par les Frankenstein, les futurs Dead Boys. We'll be right back. simple, la fin un peu brutale. C'est donc Frankenstein, c'est-à-dire les Dead Boys, mais qui ne s'appelaient pas encore les Dead Boys. C'était en octobre 75 et ils se changeront de nom l'année suivante. Avant de former les Frankenstein, donc futurs Dead Boys, Cheetah Chrome et Johnny Bliss jouaient dans un autre groupe assez mythique, les Rocket from the Tombs, du côté de Cleveland, dans l'Ohio. On en a souvent parlé hein, de cela. Et quand le groupe explosait, il a donné lieu à deux groupes devenus mythiques. Donc les Dead Boys d'un côté, avec Johnny Blitz et Cheetah Chrome. Dave Thomas, le chanteur, a formé Père Ubu, avec Peter Loeffner, qui a joué un petit peu avec eux, qui était lui un espèce de guitariste génial, et compositeur en grande partie des morceaux de Rocket from the Tombs. Et puis l'autre gars, je sais pas, plus il a formé un groupe qui était un peu plus obscur, les Saucers je crois, mais j'ai oublié son nom. Il y avait un cinquième membre qui a formé lui aussi un autre groupe un petit peu plus qui est moins resté dans les annales à vrai dire. Donc ils n'ont rien sorti de leur vivant, les Rocket from the Tombs, c'était en gros entre 73 et 75, mais par la suite des répétitions et puis quelques extraits de concerts sont parus sur une compilation qui s'appelait The Day the Earth Meet Rocket from the Tombs, bien des années plus tard. Donc on va s'écouter un extrait de cette compilation, un morceau enregistré en répète le 18 février 1975. Un morceau qui s'appelle Muckraker, qu'on n'a jamais passé a priori dans les Bébés Dinos. Signalons que Peter Loeffner, là, qui était quand même un peu la force créative du groupe, a eu un destin assez tragique puisqu'il est mort en 77 à 25 ans. Il n'a même pas atteint le club des 27. Voilà, d'une pancréatite aiguë, semble-t-il, due à divers abus de drogue et d'alcool. Mais il y a des enregistrements aussi qui ont été sortis bien des années plus tard. Bon, c'est peut-être un peu moins abouti. Souvent, il est tout seul à la guitare, mais il y a des choses intéressantes. Mais la compilation de Rocket from the Tombs, alors les morceaux live sont un peu pourris au niveau du son, mais ils répètent, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et on trouve plusieurs futurs classiques des Dead Boys et plusieurs futurs classiques de Père Ubu. Voici donc le morceau Muckraker avec David Thomas aux vocaux. Et sa façon de chanter va être, ou alors c'est un hasard, hein, mais enfin, on pourrait penser que sa façon de chanter sur ce morceau sera copiée quelques années plus tard, pas très très longtemps après, par un autre chanteur célèbre, britannique celui-là, issu d'un groupe punk très célèbre aussi, quand il fera son nouveau projet. Peut-être que vous voyez de quoi je parle. Enfin, en tout cas, écoutez ce morceau et peut-être ça vous rappellerait quelque chose. Si vous avez écouté, on dira le groupe après, quoi. Un groupe du début des années 80, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, ça m'y fait beaucoup penser. David Thomas, donc, et Rocket from the Tombs, le morceau Muckraker.
Muck! Right. should know they gave her the best. Spent the summer vacations with the OSS. Has a secret headquarters on the banks of the Ruhr. Well, over her bed lies a bust of their Führer. Now you're trying to hide high, you're trying to hide low. Well, she's gonna get your man to where you go. And you can't win at the game she plays. She's got the poor connections.
Donc par Rocket from the Tombs, c'était enregistré ça aussi vers 1975, je pense. Je n'ai pas indiqué la date, ben oui, je l'ai dit, c'était le 18 février 75. Et donc Dave Thomas, là sur ce morceau, moi j'ai cru entendre Johnny Rotten quand il chantait avec Peel, son groupe post Sex Pistols, Public Image Limited, là au début des années 80. C'était exactement la même façon de chanter, en montant dans les aigus à chaque fin de phrase. Là. Enfin, c'est très curieux. Donc, hasard peut-être, ou alors notre ami Johnny Rotten connaissait les Rocket from the Tomb, je sais pas, a entendu ce morceau, il s'est dit « Ah ouais, ça c'est marrant ». Je sais pas, quelqu'un a peut-être une meilleure explication. En tout cas, ça m'a sauté aux oreilles. Bref, on va... continuer de manière plus classique avec notre rubrique Rolling Stones. Et ce soir, un extrait de Rock'n'Roll Circus. Voilà, donc ce spectacle qui devait être télévisé, enfin qui a été filmé en tout cas, mais qui devait être diffusé à la télévision britannique, organisé par les Stones, hein, par Mick Jagger particulièrement, semble-t-il, qui a eu lieu le 11 décembre 68. Et il y avait les Stones en concert, une espèce, alors devant un public, bon, un peu assis sur des gradins, là, dans une espèce de décor de cirque, avec des invités, les Who, Jet Rottle avec Tony Iommi. Mais il paraît que Jet Rottle a joué en playback. Oh là 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 là. Et puis il y avait Marianne Faithfull, il y avait aussi cette espèce de super groupe improbable, The Dirty Mac, avec John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards des Stones et Mitch Mitchell, le batteur de Jimi Hendrix. On a déjà passé leur version de Your Blues. Dans les bébés dinos. Et je crois qu'il y avait Taj Mahal aussi, qu'on écoutera peut-être dans l'émission si on a le temps tout à l'heure. Donc finalement, les Stones, ou en tout cas Mick Jagger, a refusé que ce soit télévisé, que ce soit diffusé à la télévision, en raison de ce qu'il estimait être leur mauvaise performance. Le fait est que, version de Sympathy for the Devil, ou certains morceaux ne sont pas dans leur meilleure version, hein. Mais c'est quand même un moment marquant parce que c'est la dernière apparition en public avec les Stones de Brian Jones. Mais alors, il était déjà pas en très bon état là, Brian Jones. Donc sur certains morceaux, Sympathy for the Devil, il joue juste des maracas qu'on n'entend pas. Quoi. Enfin, c'est un peu bizarre, il a l'air un peu ailleurs. Et tout le monde disait, bon c'est fini, là, de toute façon il va quitter le groupe, c'est sûr. Et effectivement, il a quitté le groupe un peu plus tard. En juin 69, mais ça on en reparlera après. Donc on s'écoutait la dernière, enfin un extrait, un morceau tiré de la dernière apparition en public avec les Stones de Brian Jones, donc lors de ce Rock'n'Roll Circus. Et le morceau que j'ai choisi, c'est un de ceux où on l'entend quand même. C'est No Expectations que j'ai choisi. No Expectations, une balade qu'on retrouve dans Beggar's Banquet, ce qui faisait un petit peu la promo de cet album là, à cette époque-là. Et où il joue de la side guitare, on l'entend. Il joue relativement bien. Enfin, il apporte une petite touche quand même un peu particulière à ce morceau, qui est une balade sympathique, on va dire. Pas extraordinaire, mais pas assez prenante quand même. Ça, c'est, tu vois, c'est Luc là, qui m'a donné envie de passer des balades des Stones pour changer un peu. Il va peut-être passer tout à l'heure, en fin d'émission. Donc, le No Expectations des Stones, joué par les Stones, mais lors du Rock'n'Roll Circus, fin de l'année 68, avec Brian Jones, sa dernière apparition avec le groupe, à la slide guitar.
Station and put me on the train. I've got no expectations to pass through here again. Once a rich man, now I am so poor, but never in my sweet short life have I felt like this before. Your heart is like the diamond, you throw your pearls at swine, and as I watch you leaving me, you pack my peace of mind. Water that splashes on a stone. Our love is like our music, wise here and then it's gone. So take me to the airport, put me on a plane. I've got no expectations to pass through here again. Thank you.
No Expectations, donc une belle version quand même, très sobre, sur, dans le spectacle Rock and Roll Circus. Alors les morceaux finiront par sortir bien sûr, le DVD aussi, enfin le film aussi, mais alors bien bien des années plus tard. Et donc sur certains morceaux, on doit reconnaître que quand même les versions sont pas géniales. Et surtout qu'on entend essentiellement la guitare de Keith Richards. Bon, ces dernières semaines, on a surtout écouté des Rolling Stones avec Mick Taylor et sa guitare flamboyante. Là, évidemment, ça fait un sacré contraste. Mais sur cette version acoustique, avec la belle série de guitare de Brian Jones, c'est quand même un beau moment. Eh bien, après les Stones, John Lennon. Ben voilà, de toute façon, on en a déjà parlé. Et puis, il était au Rock'n'Roll Circus. Donc on va retrouver John Lennon sur son album Sometime in New York City, sorti en 72, qui était son, alors attendez, troisième album solo, et son album le plus politique. Tous les morceaux balancent là sur des sujets d'actualité de l'époque. Et d'ailleurs, du coup, il n'a pas eu énormément de succès, en tout cas aux États-Unis. Le précédent, Imagine, avait fait succès monstrueux en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans le monde entier. Ben celui-là, beaucoup moins. Pourtant, il est pas mal quand même. Hein. C'est un des bons disques solo de John Lennon. Et donc, on va s'écouter le morceau New York City. Un bon gros rock péchu, sympathique. Où il parle d'un de ses potes de New York, David Peel. Dès le premier couplet, il dit « Ouais, on a vu ce gars arriver avec sa guitare. Là. » Ouais, il s'est mis à brailler. Bon, je me rappelle plus exactement des paroles. Hein. Mais bon, enfin, il parlait de David Peel. Oh, on a dit que celui-là, c'était un vrai gars. Il était dans le vrai. Et il rend hommage donc à David Peel. On sait que par la suite. Il parle aussi de. Il a des morceaux du genre The Pope Smokes Dope. Et ce sera le titre de l'album que John Lennon a produit, avec Yoko Ono d'ailleurs, pour David Peel. C'était la même année, je crois, en 72. Donc un album qui lui aussi ne passera pas beaucoup à la radio, hein, qui a été censuré de tous les côtés et qui est resté quand même un peu très underground, quoi, hein. Ce Pop Smokes Dope, ça ne plaisait pas aux radios américaines. Bref, David Peel évoqué par John Lennon dans le morceau New York City en 1972. We'll be right back. New York City, c'était John Lennon en 72 sur l'album Sometime in New York City. Avec donc le petit clin d'œil à David Peel dès le premier couplet. Et ben bien sûr, on va s'écouter David Peel. Et on va revenir sur Brian Jones. Par l'intermédiaire de morceaux de David Peel. Parce que Brian Jones, donc, il a quitté les Stones le 9 juin 69. En disant que c'était lui qui partait, mais bon, il a quand même été un peu poussé dehors. Hein. Faut dire qu'il était dans un état un peu compliqué. Et que bon, ses relations avec Mick Jagger, Keith Richards, étaient sérieusement dégradées. Et puis, il avait du mal à participer aux sessions pleinement. Il n'était pas tout le temps apte. Il était complètement sous différents produits assez variés. Et qui ne l'aidait pas à faire son boulot de musicien. En plus, il avait été chopé pour des possessions de diverses substances illicites, donc il ne pouvait pas tourner avec les Stones non plus. Enfin bon, bref, tout ça était une situation très compliquée. Bon, il a dit qu'il quittait les Stones, et il est mort très peu de temps après, un mois après à peu près, dans la nuit du 2 au 3 juillet 69, dans sa piscine. Et cette mort est quand même restée un peu mystérieuse, parce que on a conclu un accident. Apparemment, d'après l'autopsie, il était suffisamment chargé pour avoir pu faire un malaise ou s'être carrément endormi dans sa piscine, quoi. Alors, ça aurait pu être un suicide, parce qu'il était quand même dans un état sans doute un peu dépressif. Mais cela dit, il avait des projets. Il avait, je crois, un projet de groupe avec Alexis Corner, si je me souviens bien. D'un groupe qui serait un petit peu dans l'esprit de Creedence Clearwater Revival, dont il était un énorme fan, semble-t-il. Il avait des projets, donc a priori, bon... Il pensait continuer. Et puis, l'hypothèse du meurtre a aussi été évoquée. Et il semblerait qu'un personnage un peu mystérieux, Frank Thorogood, qui était l'entrepreneur chargé de la rénovation de l'énorme maison de Brian Jones, aurait avoué sur son lit de mort en 1994 qu'il avait tué dans sa piscine Brian Jones. Mais la personne à qui il a avoué les choses, semble-t-il, l'a gardé pour lui pendant un certain temps. Maintenant, il est mort, tout le monde est mort, donc ce sera difficile de savoir un jour quelle est la vérité. Mais c'est une des hypothèses. Alors, la compagne de l'époque de Brian Jones, qui était une infirmière suédoise, je crois, a écrit un bouquin là-dessus, où elle accuse quasiment nommément Frank Thorogood d'avoir assassiné Brian Jones. Ils étaient en conflit, semble-t-il. Tout ça sur fond d'alcool, de défonce, enfin bon, bref. Donc la question est toujours s'est posée très rapidement, hein, et David Peel la pose dans ce morceau Who Killed Brian Jones? Et il l'a fait façon Who Killed Dave Moore de Bob Dylan, c'est-à-dire que tout le monde y passe, tous les Stones sont parus, non c'est pas moi, pourquoi j'aurais fait ça et tout. Ils disent tous la même chose, je comprends pas tout ce qu'il raconte David Peel, mais bon, c'est assez corrosif. Et tous défilent, il les nomme, non c'est pas moi, dit Mick, non c'est pas moi, dit Keith, non c'est pas moi, ils y passent tous. Je crois même qu'il y a Anita Pallenberg aussi. Et donc pendant un long moment, il délire sur donc, qui a tué Brian Jones sur fond de grosses guitares, parce que c'est tiré de son album Punk de 78, King of Punk. Rappelons qu'il a influencé, enfin semble-t-il, d'après certaines sources, les New York Dolls par exemple, et même les Ramones qui étaient des fans de David Peel. Donc, son premier album, c'était en 69-70, hein, donc proto-punk dans son genre, proto-punk folk déjanté. Mais là, punk à fond, hein. Donc on va s'écouter le morceau Who Killed Brian Jones. Attention, c'est un peu long. Hein. C'était donc en 78, David Peel.
Dad, I said, Mick Jagger, don't blame me for my friend's disaster. I wouldn't kill my enemy, but maybe Keith Richards guilty. I didn't drug him in his pool. Why would I be such a fool? It's so sad he died up tight. Forever lives him through the night. It wasn't me who drugged his mind.
But don't blame me for his suicide. I might have helped him out, but nothing to get hung about. Cause the Rolling Stones are merely pacifists in their upstreams. It wasn't me who made him die. I'm Mick Jagger, I don't lie. Who killed Brian Jones? Was it one of the Rolling Stones? Who killed Brian Jones? Was it one of the Rolling Stones? That Mick Mikey Richards is no satisfaction, kill God. It's a sad indict of tight. From rebel lives him through the night. I didn't drug him in his pool. Why would I be such a fool? I might have helped him out, but nothing to get hung about. It wasn't me who drugged his mind. Don't blame me for his suicide. He's just nowhere somewhere now. He's my greatest dead rock friend. Cause the Rolling Stones are merely pacifists in their rock schemes. It wasn't me who made him die. I'm Keith Richards, I don't lie. Who killed Brian Jones? Was it one of the Rolling Stones? Who killed Brian Jones? Was it one of the Rolling Stones?
Why? Why? to murder me. Therefore, Jack is in security. I need him drug me in my pool. Why would I be such a fool? I didn't drug me in my mind. Don't blame me for my suicide. I might have helped me out. My message to get hung about. It's a sign I died uptight. Forever lift me through the night. Cause the Rolling Stones are merely pacifists in their rock schemes. It wasn't me who made me die. I'm Brian Jones and I don't lie. Who killed Brian Jones? Was it one of the Rolling Stones? Who killed Brian Jones? Was it one of the Rolling Stones? That is quite the Rolling Stones. We all love our Brian Jones. To murder him. He's our greatest dead rock friend. We didn't drug him in his pool. Why would we be stupid fools? It wasn't us who drugged his mind. Don't blame us for his suicide. We might have helped him out. But nothing to get hung about. Jealous envy made us kill. Talent by Angel fulfilled. It's hard to rock, it's hard to roll. We all love our Brian Jones. It's a sign he died up tight. Forever lives on through the night. He's just somewhere, somewhere now. He's no sad, but he likes to kill God. Cause the Rolling Stones are merely pacifists in their rock schemes. It wasn't us who made him die. I'm Wilkie Jaguar, don't lie. Who killed Brian Jones? Was it one of the Rolling Stones? Who killed Brian Jones? Was it one of the Rolling Stones?
Voilà, Who Killed Brian Jones? Bon, David Peel ne donne pas la réponse. Hein. On va s'écouter la petite rubrique Dig It maintenant. Luc est arrivé, il aura une petite merveille à nous passer tout à l'heure.
Like a rolling stone, like the FBI and the CIA and the BBC, BB King and Doris Day, Matt Busby, dig it.
Digging by Georgie Wooden. And now we'd like to do How the Angels Come.
La rubrique Dig It avec une question quand même qui se pose. Who killed Brian Jones? Non, bah, non, on l'a déjà eu, hein, mais en voilà un autre. Par un groupe contemporain que peut-être on aurait pu passer à Dig It si l'émission de radio existait encore. Un groupe qui s'appelle The Usual. Alors je vous rassure, c'est pas une reprise du morceau de 11 minutes et quelques de David Peel. Hein. C'est un autre morceau qui a exactement le même titre, Who Killed Brian Jones, qui lui est sorti l'année dernière, en 2023, sur un 45 tours, par ce groupe totalement mystérieux, parce que j'ai trouvé strictement aucune information, à part le fait qu'ils aient sorti 3 45 tours déjà. Mais je n'en sais pas plus. The Usual, Who Killed Brian Jones, il propose une réponse, mais bon. Il se demande aussi qui a tué Jeff Kennedy, hein. C'est tant qu'à faire, quoi. Donc, Who Killed Brian Jones? Eux aussi se posent la question. Eh bien, quelqu'un apporte la réponse. Et lui, par contre, c'était un des groupes fétiches, un des artistes fétiches. Des bébés dinosaures aussi, à vrai dire. On l'a souvent passé quand même, parce qu'il faisait beaucoup de reprises 70s. Mais de Dig It surtout, c'est Jeff Dahl. Et on l'a fait passer 2-3 fois en concert à Toulouse. Ah, mais j'ai une histoire avec Jeff Dahl, parce qu'on l'a hébergé la première fois qu'il est venu. Je crois que c'était la première fois qu'il est venu en ville. À ce moment-là, devait jouer en trio. Il y avait le batteur et Henry Samoans avec lui. Et il s'est fait cambrioler dans notre appart, qui était au rez-de-chaussée. Ils lui ont piqué des travers chèques, du pognon. Voilà. Et bon, alors tout, ça a foutu quand même un gros coup de froid. Ils se sont demandé s'ils continuaient à tourner. Bon, finalement, ils ont joué quand même. Ils ont continué. Bon. Mais ce qui m'a foutu les boules bien des années plus tard, c'est quand j'ai appris que. Par la bande, hein, qu'il a toujours cru que nous, on était dans le coup. Nathalie et moi, ceux qui l'hébergeaient, quoi. Ça m'a foutu les boules. Parce que je l'ai revu 2-3 ans après, il est revenu en ville, je l'ai interviewé et tout, il m'a jamais parlé. Tu sais, mais plus tard, j'ai entendu, ou j'ai lu un copain lui dans une interview qui disait ouais, il s'est fait braquer à Toulouse, c'était sûrement les gars qui l'hébergeaient qui ont organisé le coup et tout. Ça fout les boules quand même. J'en avais parlé avec Gilda, je lui ai dit écoute, putain, je vais lui envoyer un mail, je lui ai dit attends, ouais, il m'a dit est tombé, de toute façon, ouais, bon. Et puis j'ai laissé tomber. Mais bon, Jeff Dahl, si tu m'entends, vu que je crois qu'il est toujours vivant et qu'il a sorti un album il y a 2-3 ans là, qui était pas mal. Hein, s'il parlait, je sais pas, par télépathie, Jeff Dahl. Non, c'était pas nous. D'ailleurs, on s'est refait braquer 3 mois plus tard. Ils m'ont piqué mes 2 guitares et mon bouson de cuir, tu vois. Et je pense savoir quand même. On a fini par se dire, putain, c'est peut-être les voisins du rez-de-chaussée, là, parce que c'était des mecs un peu louches, là. Bon, bref. En tout cas, c'était pas nous, putain. Bon, Jeff Dahl, donc. Lui, il a une réponse à la question « Who killed Brian Jones ?» Et on va se l'écouter tout de suite.
Tell me how it feels, fucking your best friend. I see you're still smiling, just a pleasure ever end. You ain't got no style, baby, you ain't got no grace. I can see that guilty look giving you all away.
Mick and Keith killed Brian, affirme Jeff Dahl. Bon, c'est de façon métaphorique, hein, bien sûr. Disons que vers la fin de leur collaboration, c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours été très sympas avec lui, mais. Et puis Keith Richards lui a piqué sa copine, c'est quand même pas rien. Mais c'est vrai que Brian Jones était quand même souvent défoncé, qu'il n'était plus trop capable non plus de jouer son rôle dans les Stones. C'est lui qui a fondé les Rolling Stones, quand même. C'est lui le leader. Au départ. Mais puis il n'arrivait pas à composer, il avait du mal à composer des morceaux, et donc il s'est fait complètement éclipsé par la paire Keith Richards et Mick Jagger, évidemment. Bref, on va laisser tomber un peu Brian Jones là, pour la fin de l'émission, et revenir quand même à Rock'n'Roll Circus, donc cette émission télévisée qui n'a jamais été diffusée, où on voyait les Stones et des invités jouer devant un public un peu sage, assis, si je me souviens bien. Les morceaux des Stones ne sont pas tous très marquants. Mais il y en a un qui tire bien son épingle du jeu, c'est Taj Mahal. Ils avaient invité Taj Mahal. Et il fait une reprise d'un morceau, And That Lot of Love, qui était un morceau de la Stax. Je ne sais plus qui l'a composé, mais Sam and Dave l'ont chanté, je crois. Et un petit peu avant, donc cette version là, qui date de 68. Donc en public, Taj Mahal, lors du Rock'n'Roll Circus. And that a lot of love.
You got to dig it, baby. Yes, yes, yes. You know the desert could not hold all the love that I have in my heart for you. If I could spread it up across the sea, I know my love would cover it all up, baby. Ain't that a lot of love for two hearts to have and hold? If the bees only knew how sweet your love would, they'd pack up their honeycomb. If the birds overheard how sweet your voice was, darling, they would pack up their song, yeah. Ain't that a lot of love for two hearts to have and hold? Woman, now you gotta smile and you gotta kiss. You gotta kindness, baby.
Lot of Love, c'était Taj Mahal, donc lors du Rock'n'Roll Circus en 1968. Bonsoir Luc. Ah, il n'entend pas, alors il faut que je te monte le casque là, c'est bon.
C'est bon.
Voilà, alors là tu nous passes un groupe dont je n'avais jamais entendu parler, à vrai dire.
C'est beaucoup d'honneur, alors je ne sais pas. Ouais, je sais. C'était pas intentionnel, mais. Et donc, voilà, tout à l'heure tu parlais de Cleveland. De l'Ohio du Nord, alors c'est vraiment le thème de la soirée, c'est vraiment Cleveland. Et là, c'est un groupe de Youngstown.
Donc c'est à côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, là, ouais. En regardant un peu là, voilà, c'est l'Ohio du Nord. Blue Ash, c'est un groupe un peu comme les. Qui a eu son heure de gloire entre 73 et 77, qui a sorti 2-33. À l'époque et qui sont des précurseurs du power pop un peu comme voilà ils étaient un peu influencés par les Birds.
D'accord.
Et voilà, voilà. Un peu comme Big Star, là, ce style-là.
Ah non, on a vu la, la facette plus proto-punk de Cleveland. Et là, c'est la facette power pop. Alors.
Alors, quand même, tous les. C'est les petites rivières qui font les grands fleuves, puisque le, celui qui anime le groupe, là, le, l'almata du groupe, Frank Sezich, c'est lui qui, plus tard, va rejoindre Steve Vartors, va accompagner sur tous les disques solo de Steve Vartors sur le, en guitare et à la basse. Et aussi, il va jouer avec Jimmy Zero des Dead Boys.
D'accord. Donc, il y avait un lien, effectivement, entre les Blue Ash et toute la bande Dead Boys, Rocket from the Tomb, etc.
Un petit monde.
Eh oui. Donc, de Cleveland, ou en tout cas sa banlieue, Blue Ash, le morceau.
Le morceau, alors c'est le, un de leurs tubes de l'époque. Abracadabra, Have You Seen Her?
Have You Seen Her? Abracadabra, c'était, Have You Seen Her, c'était le sous-titre Blue Ash, donc vers 60...
75.
75. C'est pas mal, hein?
Hey.
Et très, oui, Big Star, enfin, Birds, lignée des Birds, etc. Belle guitare claire, là.
Pas très velu.
Ah non, 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 mais...
Mais un léger duvet.
Voilà, c'est ça, un léger duvet, mais tu sais, nous sommes des bébés dinosaures, nous n'aimons pas que les, que les brutes et les mammouths, hein, attention. Mmh. Tiens, on va s'écouter Mamakas, avant notre, c'est la dernière ligne droite, là, avant le morceau folk. Mamakas, ben c'est un peu le 45 tours, un peu débile, Bon, j'ai déjà fait fort avec celui qui a ouvert l'émission, je ne reviendrai pas dessus. Là, c'est un 45 tours de 69, à l'époque où elle n'arrivait toujours pas à se faire appeler Cass Elliott, comme c'était son souhait, on l'appelait encore Mama Cass, parce que c'était plus vendeur, ça rappelait les mamas and papas. Et il y a une phase B de 45 tours, un peu débile mais rigolote, qui s'appelle All For Me, qui est parue ensuite sur des anthologies de Mama Cass. Et on va s'écouter ça, donc une phase B de 45 tours en 1969. Bêtise de Mama Cass, All For Me, une phase B de 45 tours de 1969. Et ben, il ne reste plus que la rubrique fromage de chèvre. Mais d'abord, je vous rappelle que les bébés dinosaures, c'est tous les dimanches de 21h30 à 23h qu'on est rediffusé sur Canal Sud, 92.2 bien sûr. Rediffusé le lundi à partir de 15h30 jusqu'à 17h. Et que vous pouvez télécharger des centaines d'émissions, écouter en streaming sur le site de Canal Sud, canalsud.net. Ou sur le Facebook des bébés dinos. La semaine prochaine, Tommy Boy est de retour, normalement. Donc j'éviterai de sortir mon disque de Monty, quoique peut-être que je remettrai une petite couche, qui sait. Parce que j'ai l'album aussi, hein, attention. Hein. Bon. Et en attendant, le petit jingle, parce que sinon, Tommy Boy va me tirer les oreilles. Attention, c'est parti.
Pues ton vœu, c'est du roquefort, celui du lait de nos produits. Tu recommandes en fait ici, car c'est le fruit de nos efforts.
La rubrique fromage de chèvre avec ce soir un petit morceau. François Béranger, mais c'est une reprise. L'album Participe Présent, 1978, on avait déjà passé le morceau Avril 78, avec ses guitares assez musclées, ce qui est rare dans la discographie de François Béranger. Alors celui-là est beaucoup plus folk acoustique, mais c'est une reprise. Alors lui, il appelait ça le blues parlé du syndicat. Et en fait, c'est une reprise du morceau Talking Union, qui était dû aux Almanac Singers. Alors ça, je ne connaissais pas les Almanac Singers. En fait, c'est un groupe qui a duré entre 1940 et 1943 à New York et qui était composé de Woody Guthrie, Pete Seeger, Lee Hayes et Millard Lample. Donc Woody Guthrie et Pete Seeger ont collaboré ensemble dans ce groupe pendant quelques années. Et c'est un morceau qui a été construit de manière un peu collective. et qui était une espèce de, comment dire, de manuel pour créer un syndicat. Alors, un morceau très sérieux, en fait, quoi. Enfin, très sérieux. Bon, ça déconne un peu, ça tape sur les patrons, évidemment, avec beaucoup d'énergie, mais c'était un morceau du genre, allez les gars, voilà comment faire un syndicat, allez-y, sinon vous allez vous faire entuber. Donc, Béranger a adapté ça sous le titre de « Blues parler du syndicat », et on s'écoute ça, et je vous dis à la semaine prochaine.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat ? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire aux débiles que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, feignant pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. Les gars le plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tous ceux qui bougent. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Mais chez Ford, ce qu'ils ont compris, et chez Renault, ce qu'ils ont compris, et chez Lip, ce qu'ils ont compris, et chez Rodia Seta aussi, aux joints français, ce qu'ils ont compris, un peu partout, ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh bien les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Come back.